Rebienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent. Mon nom est Marianne Spear, je suis votre animatrice. Merci d'être là, que vous soyez à la maison, dans l'auto. C'est un plaisir de vous avoir comme auditeur. Et je suis avec Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Joanne, bonjour!
Allô, allô!
On commence l'épisode d'aujourd'hui avec une chronique sur les cartes de crédit. Tu as trouvé un article bien intéressant qui dit que les cartes de crédit sont de plus en plus utilisées. Toi, ça t'inquiète en tant que conseillère budgétaire?
Oui, tout à fait, parce que l'utilisation des cartes de crédit peut, dans certains cas, malheureusement, mener vers des issues qui sont pas très réjouissantes au niveau de la santé financière.
Puis qu'est-ce qui expliquerait cette relance de la carte de crédit, cette envie de l'utiliser beaucoup? Pourtant, on est tellement sensibilisé à l'inflation, on consomme moins, blablabla. Bla, bla. On a l'impression que c'est pas la bonne option.
Ben, je pense qu'avec le retour à la vie normale fait en sorte qu'on a augmenté nos dépenses. Il y a beaucoup de dépenses qui n'étaient pas là avant. Ça, couplé avec l'inflation qu'on vit en ce moment. Effectivement, ça pousse les gens, plutôt que de réviser l'ensemble de leurs dépenses, mais à essayer de trouver une ressource pour obtenir plus de liquidité pour pouvoir faire toutes les dépenses dont ils ont envie.
Ouais.
Alors, c'est la raison, je pense, qui pousse les gens à utiliser un peu plus la carte de crédit. Mais il y a des conséquences à ça.
Puis la fin, c'est ça, c'est la fin des restrictions, selon toi, qui ont donné envie aux gens de plus sortir, plus vivre un peu. On a comme cette envie-là de retrouver nos habitudes avec nos amis dans les restaurants, etc. Mais je pense qu'il y a aussi juste le fait que, sans que ça soit nos désirs, ça va être nos besoins. Tu sais, mettre l'épicerie sur la carte de crédit, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. T'sais, la carte de crédit, je pense qu'à court terme pour certaines personnes, puis même pour moi, j'ai besoin de l'utiliser. Mais on dirait, je me sens un peu coupable de dire ça, sauf que je suis plus certaine de savoir exactement comment elle fonctionne au niveau des délais, au niveau du paiement minimum. C'est difficile à budgéter, je trouve, l'utilisation de la carte de crédit.
Tout à fait. Effectivement, il y a des erreurs qu'on voit quand on fait le budget avec une personne. Il y a, dans ce que tu viens de dire, un petit drapeau rouge qui s'est allumé dans ma tête tout de suite quand tu as parlé de faire l'épicerie avec la carte de crédit.
Ouais. Puis j'ai rencontré des syndicats en insolvabilité, puis c'est ça qu'ils m'ont dit également. Là.
Ça, pour moi, c'est un petit drapeau rouge. On reviendra tantôt, si tu veux, là, aux drapeaux rouges qui sont importants. Ouais. Celui-là, pour moi, en est un. Tu sais, quand on est rendu, qu'on utilise la carte de crédit pour des besoins essentiels. Pour moi, c'est un drapeau rouge qui s'allume pour dire il est plus que temps qu'on fasse une révision dans le budget. Tu sais. Ouais. Avant d'utiliser une carte de crédit, en fait, je pense que c'est très, très, très important de faire un budget et de savoir combien d'argent on a de disponible. Une fois qu'on a répondu aux besoins essentiels, il faut qu'on paye notre logement, il faut qu'on paye notre épicerie. Ça, on n'a pas le choix. Pour les parents qui ont des enfants, il y a des besoins essentiels auxquels ils doivent répondre. Une fois que tout ça a été payé, qu'est-ce qui me reste de disponible? Et c'est avec ça que je dois fonctionner pour établir quelles seront mes priorités. Il y a des choix à faire. Par contre, si je commence à payer tout, puis tu sais, les systèmes de points ont engendré aussi un peu ça, là.
Oui.
Il y a beaucoup de gens qui disent, je vais tout mettre sur ma carte de crédit, comme ça je vais gagner plus de points. Puis quand arrive la fin du mois, c'est comme la limite n'est pas celle qui est réelle, c'est la limite de crédit et non pas la limite qu'il y a dans mon compte de banque. C'est facile de se laisser aller, de se laisser emporter par les petites envie au quotidien qu'on peut avoir. Mais ça commence à être dangereux quand on arrive à la fin du mois et qu'on ne fait pas la totalité du paiement de la carte de crédit. Il y a des questions à se poser. C'est sûr que si vous faites juste le paiement minimum, ben ça, c'est pelleté un peu par en avant et tôt ou tard, il y a un mur qui va se dresser devant soi.
Je pense qu'il y a des calculatrices en ligne là, qu'on peut voir si je fais juste le paiement minimum, en combien de temps je vais rembourser mon solde.
Absolument.
C'est un solde de 1 000 500 $ c'est plusieurs mois, là.
Absolument. Et ce qui m'agace un peu avec ça aussi, je pense que c'est les gens ne savent pas toujours comment fonctionne réellement la carte de crédit. Puis comment ça se fait que à un moment donné, on perd un peu le contrôle, puis que le solde de la fin du mois ne cesse pas de grandir. Tu sais, je vais te donner un exemple. Par exemple, si moi j'achète pour 100 $ de biens ou services sur ma carte de crédit, qu'à la fin du mois, je décide de payer 99 $, il me reste 1 $ sur lequel j'ai pas payé. D'après toi, les intérêts vont s'appliquer sur quoi? Sur le 1 $ restant ou sur le 100 $?
Ben, je sais que c'est le 100 $, mais c'est justement, c'est parce qu'on m'a posé la question que j'allais faire les recherches. J'étais plus certaine, là.
Exactement. Mm. C'est ça. Les intérêts vont s'appliquer sur la totalité de l'achat que vous avez fait. Mm. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ils se disent, ah, mais j'ai quand même payé 99 $, il me restait juste 1 $, je vais payer les intérêts sur 1 $, c'est pas si pire.
Pis surtout des gens qui, en ce moment, tu sais, à chaque fois qu'ils utilisent leur carte de crédit, ils s'en foutaient un peu, pardon, du paiement minimum ou même du taux d'intérêt parce qu'ils payaient toujours leur carte de crédit au complet à la fin du mois. Mais avec les temps qu'on vit présentement, c'est peut-être des choses qui arrivent moins souvent. Et en fait, on le voit avec l'article que tu nous as partagé, là.
C'est ça, tout à fait. Puis non seulement ça, mais ça va se faire à partir de la date où vous avez fait l'achat. Alors, si vous, tu sais, mettons que vous avez vous faites un achat le 2 janvier, puis votre facture qui va arriver à la fin du mois va comprendre les achats entre le 1er puis le 28. Là, vous avez comme 21 jours plus tard, vers la fin de février, vous allez pouvoir faire votre paiement. Ben, si vous n'avez pas payé la totalité de l'achat, les intérêts s'appliquent à partir du 2 janvier, si c'est le 2 janvier que vous avez fait votre achat. Donc, les intérêts se cumulent et augmentent un peu comme boule de neige.
Ben, tu sais, juste, je t'entends parler, puis je comprends qu'on perd le fil à un moment donné de ces intérêts-là, parce qu'ils s'appliquent à des moments différents, on doit les payer à un moment différent, selon certaines règles différentes, ça vient mêlant. Mm.
C'est correct d'utiliser la carte pour les systèmes de points si vous savez que vous avez la capacité de payer la totalité de votre solde à la fin du mois. Si vous l'utilisez comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas d'intérêt. Alors, vous êtes gagnant-gagnant. Mais c'est pas pour rien que les entreprises, les émetteurs de cartes de crédit font beaucoup de sous. C'est parce que la majorité des gens ne le font pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne paient pas. Tu sais, on a tous bifurqué une fois ou deux à un moment donné où OK, je vais me permettre d'étirer mon paiement sur quelques mois. On l'a tous fait. Et c'est là que c'est gagnant pour les entreprises qui émettent les cartes de crédit. Mais c'est pas gagnant pour nous. D'autant plus que quand on paye les intérêts, ça veut dire que chaque achat que vous avez fait, en moyenne, les cartes de crédit régulières ont des taux d'intérêt de 19,99%. C'est 20%.
Ouais.
Tu sais, je ramène l'idée que ça déplaît à certaines personnes de payer la TPS, la TVQ, mais vous payez 20% de plus à votre achat. Tu sais, à la longue, ça commence à paraître. Ça, c'est de l'argent qui s'envole que vous auriez pu utiliser pour vous acheter d'autres biens. Et ce sont, pour la plupart du temps, des dépenses qui sont prévisibles. Et quand c'est prévisible, il n'y a pas de raison que vous payiez tout ce que vous achetez 20% de plus.
Donc, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur les cartes de crédit, qui veulent de l'aide dans la gestion de leur carte de crédit ou même dans leur gestion budgétaire, Joanne Leblanc, conseillère budgétaire chez Options Consommateurs. Merci beaucoup, Joanne. Je suis le compte de l'immigrant économe sur Instagram depuis quelques temps, puis j'aime beaucoup son contenu, mais j'étais surtout très curieuse de savoir qui était derrière le compte parce que la personne ne montre pas son visage. Donc, on a fait des petites recherches à Options Consommateurs et on a réussi à l'avoir à l'émission d'aujourd'hui. Je suis très contente. On est avec Julie Edoa. Bonjour, Julie.
Bonjour, Marianne.
Alors, je vais te présenter avant pour mettre tout le monde en contexte. On t'a invité aujourd'hui pour en savoir plus sur les défis économiques que peut représenter l'immigration au Canada. Et Julie est immigrante au Canada depuis 6 ans. Arrivée au Cameroun et munie d'une maîtrise en marketing et d'expérience professionnelle dans ce domaine en tant que chargée de projet, elle déménage au Canada à la suite d'une recommandation de son amie qui avait ressenti son désir de nouveaux défis professionnels et personnels. En arrivant au Canada, Julie est confrontée à plusieurs enjeux, dont celui d'obtenir de l'expérience de travail sur le sol canadien. Elle refait une maîtrise en marketing au Canada. Un parcours habituellement de 2 ans qu'elle fait en un seul, vu la similitude de sa maîtrise faite au Cameroun. motivée par le manque de ressources qu'elle juge fiables et pertinents sur le système financier au Canada, elle crée le compte Instagram « L'immigrant économe » qui partage ses prises de conscience et découvertes sur le sujet. Est-ce que ça te présente bien, Julie, selon toi?
Oui, ça fait pas mal le tour, effectivement, ouais. de moi, de mon immigration au Canada et puis de ce que je fais avec le compte immigrant économe.
Oui, c'est ça. Je ne suis pas allée dans les détails, mais c'est parce qu'on va avoir le temps de le faire. Ça a mm-hmm. été quoi tes premiers défis quand tu es arrivée au Canada? Est-ce que c'était au niveau du logement, au niveau du travail, vraiment?
Bon, le premier défi, c'était l'accent québécois. Ouais. J'avais énormément de mal à comprendre ce que les gens me disaient. Mais plus sérieusement, je pense que la plus grande difficulté, ça a été déjà l'accès au système et aux ressources financières. Mm-hmm. Bon, je suis arrivée comme étudiante, ça a été assez facile de trouver un premier emploi étudiant. Mais après, pour ouvrir un compte bancaire, la première fois que je suis partie, on m'a posé des questions, on me demandait des choses que je comprenais pas, que j'avais pas. C'était un peu difficile. Enfin, pas difficile, mais c'était ça le premier défi, en fait, de naviguer toutes ces questions qu'on te pose quand tu arrives et que tu comprends pas, tu sais pas ce que c'est. C'était ça.
Par exemple, la carte de crédit.
Par exemple, la carte de crédit. Oui, quand tu arrives, on te demande de faire un dépôt d'argent, un dépôt de sécurité pour pouvoir te donner une carte de crédit. Bon, et puis après, quand j'ai trouvé mon emploi étudiant, bon, ma banque qui avait jugé que maintenant que j'avais un revenu, j'étais éligible pour une carte de crédit, ils m'ont envoyé une carte de crédit avec une limite, je pense, comme de 2 000 $. Et bon, moi, j'y comprenais rien. On me disait 2 000 $. Je disais, waouh, on me donne une carte avec 2 000 $. Fait que je pensais que c'était...
L'argent qui était à toi, tout simplement.
C'était ouais. que la banque me donnait 2 000 $ à utiliser, quoi. Donc, ouais. J'utilisais la carte comme si c'était une carte de débit avec 2 000 $ qui m'appartenait. Mmh. Et bon, j'ai douloureusement appris que c'était pas de l'argent qui m'appartenait. C'était pas de l'argent.
Douloureusement appris, j'adore. Oui. Puis, c'est où que tu es allé chercher ton information, finalement?
Finalement, c'est dans des lectures. Comme je dis, j'ai douloureusement appris que ce n'était pas mon argent parce que j'étais... À un moment, j'avais presque maximisé ma carte et la banque, elle m'augmentait ma limite de crédit à chaque fois que je maximisais pratiquement. Donc, okay. Ça fait que plus j'utilisais, plus on m'augmentait ma limite, plus je m'endettais. Et voilà, donc à un moment, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air de marcher bien, bien cette affaire. Fait qu'il faut que je trouve comment ça fonctionne. Et j'ai commencé à lire parce que c'est ce que je fais quand j'essaye pour acquérir des connaissances. J'ai commencé à lire, mais le contenu que je trouvais, c'était beaucoup plus du contenu américain ou alors du contenu canadien anglophone. C'était vraiment difficile de trouver du contenu qui était canadien francophone et puis qui expliquait étape par étape, en fait, qui expliquait les rouages de comment ça fonctionnait. J'y pense aussi, un autre défi que j'ai eu, c'est quand je suis partie à la banque et je voulais ouvrir un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt. Et la dame qui m'avait reçue, elle m'a dit, oh non, en tant qu'étudiante, tu n'as pas droit au CELI. C'est quelque chose que j'avais déjà entendu parce que la plupart des services financiers comme les prêts, les marges de crédit et autres, on n'y a pas droit quand on est résident temporaire. Okay. Donc, quand elle m'a dit, tu n'as pas droit au CELI, ben, je suis rentrée chez moi. J'ai dit, OK, d'accord, je n'ai pas droit au CELI. Et donc, j'ai passé une année encore. Et c'est une année après, en fait, quand j'ai commencé à me documenter un peu, que j'ai compris que j'avais droit au CELI, même quand j'étais résidente temporaire, j'avais droit au CELI et que voilà, j'avais passé une année à ne pas profiter des avantages du CELI parce que la dame à la banque, elle ne savait pas. Moi non plus, je ne savais pas. Donc, oui, c'est ça en fait.
Ouais. Puis, par exemple, quelqu'un qui est nouveau dans... Ben, quelqu'un qui arrive au Canada là, puis qui est confronté à une situation similaire ou du moins qui s'en va chercher des ressources auprès d'une banque ou d'une caisse en particulier, est-ce que tu lui conseillerais peut-être de regarder les autres banques, les autres caisses aussi, de ne pas s'arrêter à seulement une personne? Puis je dis pas que tu t'es arrêté à seulement une personne, ça aurait été le réflexe que je pense tout le monde a eu, mais si on peut apprendre de ton expérience.
Oui, effectivement, je pense que c'est une bonne idée de quand on arrive d'essayer d'avoir de l'information de plusieurs sources. C'est vrai que quand on arrive, moi je pense que c'est l'erreur que j'ai faite peut-être, c'est que quand je suis arrivée, j'ai suivi, j'ai en fait. Je me référais à une seule source. Donc, quand je suis arrivée, mes amis m'ont dit, ben, y a telle banque qui est souvent bien pour les étudiants. Bon, je n'ai pas regardé plus loin que ça. Je n'ai pas regardé ce que les autres banques proposaient, rien du tout. Je suis juste allée avec cette banque-là. Et ensuite, je demandais des informations à la banque. Bon, eux aussi, les connaissances sont limitées en ce qui concerne les résidents temporaires parce qu'ils sont habitués à traiter comme avec des Canadiens ou je ne sais pas quoi, des résidents permanents.
Ouais.
Donc, leurs ressources, en fait, leurs connaissances sur ce à quoi les résidents temporaires ont droit est assez limitée. Et comme je dis, c'est une expérience que j'ai eue à plusieurs reprises. Je vais à la banque, je demande tel produit, on me dit, oh non, vous n'avez pas droit à ce produit en tant que résident temporaire. Et bon, des fois, c'était vrai, des fois, c'était pas vrai, mais c'est bien de diversifier ces sources. Et puis, si on te dit non ici, essaie de demander ailleurs si c'est quelque chose qui est accessible.
Puis c'est sûr, là, toi, ça fait 6 ans quand même que t'es arrivée. Donc, j'ose espérer que ça a un peu évolué. Puis j'ai l'impression que oui, j'ai envie de te conter une petite anecdote. Mais moi, j'ai commencé à donner des ateliers justement pour nouveaux arrivants immigrants sur système financier, système d'impôts, etc. Il y a 3 ans pour la Fondation canadienne d'éducation économique. Puis il y a 3 ans, j'étais la première représentante francophone de cette organisation-là. Sinon, tous leurs représentants étaient anglophones. Donc, ça m'a vraiment sonné une cloche quand tu m'as dit que toutes les informations que tu trouvais étaient plus au niveau des États-Unis ou des informations en anglais. J'ose espérer que ça s'est francisé un peu. Surtout qu'on cherche à franciser les gens qui arrivent ici puis qui parlent, qui ont une autre langue principale. Mais, toi, Julie, je comprends tous ces défis-là, puis je voulais te dire, tu sais, félicitations, c'est tout à ton honneur d'avoir ouvert ce compte-là. J'encourage tout le monde à aller regarder l'immigrant économe sur Instagram. Puis ça me donne envie de parler un peu de ton travail aussi, de ta maîtrise en marketing. Il y a quand même un lien, un compte Instagram que tu as créé et le domaine dans lequel tu as étudié. Aujourd'hui, est-ce que t'es capable de travailler dans ton domaine comme tu voulais en premier lieu quand t'es arrivée au Canada?
Non.
Non, mais c'est ça que j'aimerais qu'on parle ensemble. Je vois que t'as même fait une maîtrise au Canada pour avoir de l'expérience canadienne. Aujourd'hui, t'en es où dans tes recherches? Puis dans les dernières années, à quoi tu as été confrontée quand tu allais quand tu allais passer une entrevue?
Bon, à ce jour, je travaille en marketing, mais disons pas avec le niveau d'études que j'ai fait. Donc oui, j'ai deux maîtrises en marketing, mais je travaille le travail que je fais, je pense que c'est un travail que Je sais pas c'est quoi le diplôme qu'on obtient ici après le cégep, mais je pense que même quelqu'un qui sort du cégep peut faire le même travail. La difficulté à trouver un travail avec le niveau d'études que j'ai, ben, c'est que, comme tu as mentionné tantôt, on va te dire tu n'as pas d'expérience canadienne. Concrètement, c'est quoi l'expérience canadienne? L'expérience canadienne, c'est qu'on te dit que tu n'as pas travaillé au Canada. Et donc, voilà, tu ne sais pas c'est quoi les façons de faire ou la culture de travail. Bref, je ne sais pas exactement ce qu'on inclut souvent dans cette expérience canadienne qu'on nous mentionne. Mais voilà, on te dit, tu n'as pas d'expérience canadienne. Et donc, quand tu es étudiant international, c'est sûr que c'est pas avec, tu vas pas trouver un poste de chef de produit ou chef de projet en étant pour avoir de l'expérience canadienne. Donc, on prend des emplois dans des magasins de détail parce que c'est ce qui nous est accessible. Mais après, quand on sort de l'école, ben moi j'ai fait un cursus un MBA, une maîtrise en administration des affaires, et j'avais pas de stage parce que je sais que des fois il y a des programmes qui ont des coop et puis qui font des stages. Moi, j'avais pas ça, fait que j'ai terminé mes études, j'ai pas fait de stage et tout. Donc, je me retrouve sur le marché du travail. Et la seule expérience canadienne que j'ai, ben, c'est au service à la clientèle. Et donc, ça fait que disons, les seules, quand on regarde mon CV, l'expérience canadienne que j'ai, c'est dans le service à la clientèle. Et donc, ce sont des postes similaires qu'on a envie de me. En fait, ce sont des postes similaires qu'on est disposé à me donner parce que c'est ce que j'ai comme expérience canadienne. Mais en réalité, comme je dis, l'expérience canadienne, ça ne veut absolument rien dire. La gestion, les livres de gestion qu'on utilise au Cameroun, ils sont écrits aux États-Unis. C'est les mêmes livres qu'on utilise au Canada. C'est les mêmes notions qu'on utilise au Canada. Quand je suis arrivée au Canada et que j'ai dû refaire ma maîtrise, une maîtrise, bon, on m'a pas dit que subitement les 4 P du marketing, c'était plus le produit, le prix, la place, la promotion. On m'a pas dit que c'était plus. Bref, c'était les mêmes concepts que j'ai vus à l'école au Cameroun, que j'ai revus au Canada. Et donc, je ne comprends pas qu'on me dise que quand j'ai travaillé comme chef de produit au Cameroun, qu'on me dise que je ne peux pas travailler comme chef de produit au Canada parce que je n'ai pas d'expérience. L'expérience en quoi? Je ne sais pas exactement. Et puis dernièrement, je lisais que l'expérience canadienne, c'est un concept uniquement canadien. C'est un genre
C'est
de
propre, c'est propre au Canada, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est une sorte de discrimination, disons les mots tels qu'ils sont. C'est une sorte de discrimination, en fait, de dire aux gens que parce que tu n'as pas d'expérience canadienne, tu ne peux pas occuper tel poste. Mais pour que j'aie de l'expérience canadienne, il faut que quelqu'un me donne la chance. Donc, pour moi, l'expérience canadienne, c'est un beau mot, en fait, qu'on a fabriqué pour justifier cette discrimination que les immigrants vivent d'arriver et de ne pas pouvoir s'insérer dans le milieu du travail malgré leurs compétences et malgré leur expérience.
Mais c'est frappant de t'entendre dire ça. C'est définitivement pas quelque chose que je vis, mais ça me touche beaucoup de l'entendre. Puis à long terme, qu'est-ce que t'aimerais avoir de pas de l'expérience canadienne, je peux pas reprendre ce mot-là, mais qu'est-ce que t'aimerais vivre professionnellement au Canada?
J'aimerais professionnellement vivre comment dire, de travailler comme chef de produit, quelque chose que j'ai déjà fait dans mon pays, quelque chose que j'ai appris à l'école, que je sais que je peux faire et que j'essaie de faire en fait avec avec ma page Immigrant Économe, parce que essentiellement, c'est ça, un chef de produit, c'est que tu as un produit, y a un problème et puis tu crées un produit pour essayer de résoudre ce problème et tu essayes de faire en sorte que ton produit reste à jour et continue de résoudre les problèmes les problèmes de tes clients ou de la population.
Ben, merci beaucoup, Julie, pour tes explications aujourd'hui, pour nous avoir montré ta vision des choses que tu as vécues. On entend beaucoup parler d'immigration, d'accueil aux nouveaux arrivants, de diversité, mais c'est le fun d'avoir quelque chose qui ressemble plus à un témoignage comme celui que tu as fait aujourd'hui. Puis dans l'avenir, moi, j'ai un sentiment qu'on pourrait voir l'immigrant économe former d'autres immigrants au niveau des sujets d'économie, du système bancaire, etc. Du moins, tu sembles avoir un beau produit en développement, puis j'invite tout le monde à aller suivre le développement de l'immigrant économe sur Instagram. Merci beaucoup, Julie. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On a débuté en parlant du crédit, puis on en a parlé un peu aussi avec notre invité. L'objectif, c'était pas d'avoir une émission au terme, mais c'est toujours le fun quand il y a un peu de continuité. Donc, pour vos commentaires, suggestions, n'hésitez pas à nous écrire sur nos comptes Facebook, Instagram, Options Conso ou Options Consommateurs. À la prochaine!